Donc, je tiens à remercier très chaleureusement nos différents intervenants. Donc, je vais commencer par les femmes. Donc, le docteur Marie-Pierre Archambault, qui est médecin généraliste, spécialiste de la médecine de l'adolescence. Anne-Dauphine Julien, qui est journaliste, écrivain et réalisatrice du film « Et les Mistral gagnants » que j'espère que vous avez tous été voir, parce que c'est un magnifique film. Le professeur Philippe Jamet, qui est pédopsychiatre, professeur des universités, praticien hospitalier émérite de psychiatrie et de psychanalyste. Cynthia Ferry, qui n'est pas encore là, mais qui sera là cet après-midi, qui est psychanalyste et philosophe, membre du conseil scientifique de la chaire de philosophie de l'Hôtel-Dieu. Et cette année, encore, je remercie Patrice Suer, qui est psychiatre et psychanalyste, mais qui est avant tout pour nous membre de notre conseil d'administration, qui est coordinateur national de la pédopsychiatrie du groupe Clinéa, et également président de l'Institut virtuel. Et donc, il va avoir la lourde tâche, non seulement d'être gardien du temps, mais surtout d'animer le débat. Voilà, merci mille fois à tous.
Non, Laetitia, ce n'est pas une lourde tâche, dans la mesure où c'est un grand plaisir de participer, comme chaque année, à cette journée qui réunit les enseignants bénévoles et les partenaires, sur lesquels vous avez bien insisté. Et ce n'est pas une lourde tâche non plus que d'être là, à cette place, avec les intervenants que vous allez pouvoir entendre et auxquels vous pourrez poser vos questions, puisque je les connais bien l'un et l'autre depuis très longtemps. Et je sais qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'une animation pour s'animer. J'aurai donc plutôt ce rôle que vous m'avez attribué de gardien du temps. Mais je pense que l'un et l'autre ont une grande habitude du dialogue et de l'échange avec des publics extrêmement variés. L'un et l'autre ont une grande habitude du rapport qu'il y a entre les problèmes de santé et les questions pédagogiques. Et donc, je ne suis pas du tout face à une lourde tâche de ce point de vue-là. Et puis, par ailleurs, de retrouver les enseignants que je côtoie depuis l'âge de 3 ans, est évidemment un rappel en même temps de souvenirs heureux, de souvenirs moins heureux, mais c'est ça qui forme la vie. Et j'ai pu avoir la chance, dans mon parcours professionnel ultérieur, de continuer de les côtoyer dans des dispositifs de soins et d'études. Et donc, à l'école, à l'hôpital, je poursuis cette possibilité que l'association m'a offerte en m'acceptant en son sein de rencontrer régulièrement des enseignants bénévoles. Voilà. Alors, nous allons commencer cette matinée par une intervention du professeur Philippe Jamet, que la plupart d'entre vous connaissent, j'imagine, qui a longtemps aussi eu l'occasion de rencontrer des enseignants de l'école à l'hôpital lorsqu'il dirigeait le service de psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte à l'Institut mutualiste Montsouris, et qui sort tout juste un livre « Quand nos émotions nous rendent fous », qui, je l'espère, aura un grand succès, puisque la question des émotions est un sujet sur lequel il travaille beaucoup depuis un certain temps, et qui lui paraît un des éléments et un des ingrédients tout à fait important dans les conduites humaines. Donc, Philippe, je te passe la parole pour le temps prévu par les organisatrices.
Je te demande d'être vigilant pour me libérer de ce souci. Mais donc, merci beaucoup, l'École des parents, de cette invitation. Et qui, non, c'est pas l'École des parents, ça c'est un lapsus du fait de ma maman. De cette invitation qui me rajeunit aussi parce que, effectivement, nous avons un parcours semblable depuis l'âge de 3 ans, on a rencontré beaucoup d'enseignants, mais c'est surtout parce que j'ai eu l'occasion d'apprécier pendant les 40 ans où j'ai travaillé à ce qui était autrefois l'hôpital international de l'Université de Paris, qui est devenu dans les années 90 l'Institut mutualiste Montsouris, dans ce service d'adolescents, de psychiatrie d'adolescents et jeunes adultes de 12 à 25 ans. Et j'ai une très grande gratitude à l'égard de ce travail justement de l'école à l'hôpital, de ce que ça nous a apporté et apporté à nos patients d'ouverture et de oui, une véritable ouverture d'une diversité, d'une complémentarité, que tout a été dit là dans cette complémentarité. Et je suis donc très content d'essayer d'en faire un peu le bilan avec vous et de vous dire combien ces phénomènes d'ouverture, c'est important, c'est la vie même. En effet, avec le temps, il faut bien que ça ait des avantages, je m'aperçois qu'au fond de l'extraordinaire richesse qui a été pour moi de me retrouver à la fin de mon internat en 1968, sans que tout ça pour des raisons de rencontres, d'événements, comme toujours dans la vie, dans ce service qui venait d'ouvrir quelques années auparavant, et de pouvoir y rester 40 ans. Voilà. Et là, je me dis, dans un service où on avait 39 places d'hospitalisation, 30 places d'hôpital de jour, à peu près 2500 adolescents en file active par an. Donc, rester 40 ans et surtout avoir encore là, des contacts avec certains patients, dont des patients que j'ai soignés comme internes en 69, 70. Bon. Non pas que je les suive toujours, j'avais suivi plus de 10 ans, mais quelque chose fait qu'on a gardé dans le service beaucoup de contacts avec d'anciens patients que j'en rencontre sans arrêt dans des interventions et on voit ce qu'ils sont devenus. Et c'est là où je me dis... que nous avons une position assez extraordinaire dans ces rencontres avec des adolescents en difficulté et de pouvoir les suivre. C'est une expérience de vie, bon, voilà. Une philosophie de la vie. C'est-à-dire que là, ce qui m'a le plus apporté, c'est bien sûr ma formation. J'étais neuropsychiatre, psychanalyste, vous l'avez dit. Mais c'était les outils qui étaient nécessaires. Mais ce qui a été pour moi la révélation, c'est cette possibilité de voir justement le devenir de certains patients et qui peuvent vous dire, après quelques fois, je pense à quelqu'un qui est devenu médecin, d'ailleurs 10 ans de suivi et 30 hospitalisations, 33 exactement, dire bon, je ne suis plus anorexique, je ne comprends pas comment on peut être anorexique, je le voudrais, je ne le pourrais pas. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas d'être malade. Alors on le sait pour les maladies somatiques, encore que quelquefois on a des interprétations bien rapides, mais c'est vrai pour toute maladie, c'est pas un choix. Et ces maladies, qu'est-ce qu'elles sont ? Elles sont le miroir grossissant de la vie, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous fait passer d'une position, disons, de créativité, d'échange, à une position de destructivité, c'est-à-dire d'enfermement dans une maladie qui s'impose à nous. Et au fond, la maladie, c'est vrai pour les maladies dites mentales, mais c'est vrai pour toutes, au fond, les maladies, c'est quoi ? Eh bien oui, ça, c'est quelque chose, c'est un empêchement, c'est quelque chose qui vient couper ce qui est le sens même de la vie, c'est-à-dire l'échange. Vous l'avez très bien dit, cette co-construction qu'est la vie. La vie, c'est un échange permanent. Bon. Et la maladie, c'est une coupure. Alors, c'est vrai sur les plans dits psychiques, en fait, si peu psychiques et surtout émotionnels, mais toute maladie, voilà, ça va nous priver d'une partie de nos moyens de communication. Voilà. Et c'est ça que j'appelle la destructivité. Enfin, c'est une forme de... Ça détruit ce qui fait la vie, bon, qui est l'échange. Et du coup, en voyant ce devenir, que rien n'était fatal, qu'en effet, certains allaient en mourir sans qu'on ait pu l'éviter, d'autres vont en sortir, donc ne plus comprendre comment ils ont été comme cela. Alors, c'est encore plus saisissant pour ces maladies dites psychiques de ne plus les comprendre. Alors que, bon, on n'a pas l'impression qu'on ne peut pas comprendre un cancer ou une maladie génétique. Mais ça nous révèle quelque chose de fondamental sur notre fonctionnement d'être humain. C'est que ça nous interroge sur ce qu'est un être humain. Et concomitamment à cette chance, pour moi, d'avoir cette possibilité de suivre, cette leçon de vie qui a été pour moi ce contact avec des patients... Eh bien, concomitamment, ces 50 dernières années nous ont apporté sur la connaissance de la vie des informations comme on n'en a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité. Nous n'avons jamais été informés comme cela. Donc, à 30 ans, 50 ans, mettons, on est passé dans une position où on peut comprendre le comment de la vie Alors, rien du pourquoi. Donc, ce n'est pas la peine de nous entretuer sur nos croyances, bien que nous ayons une certaine propension à le faire. On peut se demander d'ailleurs pourquoi. Mais, enfin, si ça a un sens. Donc, le pourquoi, je pense d'ailleurs qu'on n'est pas prêt de... Donc, les croyances restent avec leur validité. Mais le comment, voilà. Et ça, ouais, c'est quelque chose... Enfin, je dis, enfin, il faut qu'on voit ce que ça nous apporte. Bon. Et là, je vous renverrai volontiers à un livre d'un neurobiologiste connu, qui est Antonio Damasio, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est d'origine portugaise et travaille aux États-Unis, qui a publié, notamment chez Odile Jacob, L'erreur de Descartes, trop intellectualiste, Spinoza avait raison, encore que ce soit moins vrai pour Descartes qu'on a bien voulu le dire, mais Spinoza avait raison, la place des émotions, et puis maintenant l'autre moi-même, c'est-à-dire... L'autre moi-même, c'est moi, c'est-à-dire l'être humain dont la spécificité, semble-t-il, c'est qu'il est le seul être vivant sur Terre capable d'être conscient de lui. La conscience, les animaux en ont, un langage, ils en ont un, plus ou moins sophistiqué. Nous, nous sommes les seuls à être conscients d'être conscients de nous. Et là, je vais vous dire pourquoi ça c'est quelque chose dont il faut qu'on s'empare. Parce que c'est ça qui fait l'humanité. C'est cette possibilité de se regarder, bon, et de se regarder comme un objet d'étude, de dire « moi, qui suis-je, moi ? Celui-ci, celui-là ?» Alors, vous voyez que ça va entraîner, bien sûr, comme conséquence, hein, immédiatement, le fait de pouvoir se voir, c'est le pouvoir de choisir. Nous avons le pouvoir de choisir. Mais qu'est-ce qui va nous faire choisir, hein ? Et comment on va réagir aux événements de la vie ? Alors, je vais en dire quelques mots, parce qu'il me semble, encore une fois, qu'on ne se rend pas compte de la chance que nous avons de mieux comprendre notre fonctionnement, et que ça, très tôt, et au niveau de l'école, il faudrait qu'on puisse le faire passer, et voir comment la vie, c'est pas la mort, la vie, c'est la transmission. C'est ça que nous montre la biologie. Et on continue à s'exciter autour de la mort, tout ça, en faisant le but de la vie. Pas du tout. Et ça va d'ailleurs, ce n'est pas cohérent justement avec les croyances. Tout ce qu'on voit de la vie, c'est que c'est pour transmettre. Il n'y a que pour les hommes, parce qu'ils ont conscience d'eux-mêmes, que ça apparaît comme la mort. Les animaux, ce qu'ils ne supportent pas, c'est la séparation, c'est la perte d'une personne aimée, d'un objet d'attachement, d'un partenaire. Et ça peut... casser l'élan vital, on va dire. Ils vont se laisser mourir. Mais ils ne sont pas en train de dire, vous savez, c'est ce qui t'attend de toute façon, hein, et nous allons tous mourir. Non, ça, c'est notre capacité réflexive. Et on ne s'en est toujours pas remis. Bon. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas que finalement, on n'ait rien choisi de nous-mêmes. On n'a pas choisi de naître, enfin, sauf information nouvelle, mais enfin bon. On n'a pas choisi de naître, on n'a rien choisi de notre culture, de nos croyances, de nos convictions, tout ça, on n'a rien choisi de ce qu'on est. C'est ça d'ailleurs que nous montrent les adolescents à un moment donné. On leur dit, débrouille-toi maintenant, crée ton domaine. Ah ben oui, d'accord, mais avec quel matériel ? Eh ben, j'ai rien choisi, moi, de ce que je suis là. C'est vous qui m'avez transmis tout ça. Et oui, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ce qu'ils vont apprendre, c'est qu'ils ont une possibilité de choix, mais beaucoup plus restreinte qu'on ne le croit. Et que je crois que c'est ça qu'il nous faudrait avoir sans arrêt en tête, cette possibilité de choix, oui, on l'a. Bon. Mais quand est-ce qu'on le décide vraiment, ou quand est-ce qu'on est sous le coup de nos émotions, c'est-à-dire d'une réaction, voilà. Et les émotions, c'est ce qui nous relie au monde animal, au monde de la vie. C'est ce qui fait qu'on n'est pas des ordinateurs. La réflexivité, c'est ce qu'on est arrivé à maîtriser au niveau des ordinateurs. Mais on voit bien qui ne sont pas prêts d'avoir des émotions, même si on peut simuler l'émotion. Et avoir des robots qui vous disent « il faut avoir confiance en moi, je suis gentil, vous me plaisez beaucoup ». Mais vous voyez que ce n'est pas tout à fait le même effet que quand c'est quelqu'un qui vient vous voir et qui vous... Voilà. Ça ne va pas déclencher quoi ? Ben, les mêmes émotions, le même vécu. L'émotion, c'est la vie. Et la vie, c'est ce qui nous relie à ce monde du vivant, depuis l'animal jusqu'au végétal. Et qu'on voit que la vie... Là, je me réfère à Damasio, je vous en dis un peu, parce que c'est pas très... Finalement, c'est assez simple. Hein, c'est assez simple. C'est que la vie, ça a commencé par l'individuation. L'individuation, c'est-à-dire la première cellule vivante. Alors on sait maintenant que c'est arrivé par de la chimie, parce que la chimie c'est la vie, on a un petit peu tendance à l'oublier hein, quand même. Bon, c'est de l'hydrogène, l'oxygène, etc., dans une certaine pression, avec une certaine densité hydrique autour, et la première cellule est apparue. Et il est probable que d'ici quelques années, nous pourrons créer des cellules vivantes. Bon, donc la cellule est apparue, mais avec l'intérieur, alors là c'est plus difficile, l'ADN, c'est-à-dire cette brique, qui va dire quoi ? Mais la transmission. L'ADN est là. Et une fois que la cellule s'est créée, la première cellule vivante est apparue, elle se caractérise par quoi ? Par une membrane, la frontière, et qui va l'individuer. La vie, c'est l'individuation. La cellule s'est individuée dans un monde aqueux, dans un monde minéral, et là, elle apparaît comme un individu très fragile, cette membrane. Et après, la nécessité qu'il y ait les circuits appétitifs, c'est-à-dire on va chercher dehors la nourriture, les circuits aversifs, on rejette le toxique. Et c'est parti. Et on a, ça ne s'arrête plus tant qu'on vit. C'est les shadocks, c'est les pompes. Voilà, on est en train de pomper sans arrêt. Et nous sommes comme ça. Vous savez combien d'équivalents SMS envoie votre cerveau pendant que vous m'écoutez, plus ou moins encore sous l'effet du sommeil, ou avant, bon, peu importe. Mais entre 1,5 milliard et 2 milliards de SMS à la seconde, votre cerveau comme le mien. Alors mes petites pensées, même auxquelles j'essaie de m'agripper là pour qu'elles arrivent de façon un peu cohérente, c'est pas beaucoup dans le travail du cerveau. C'est pour ça que 40% de l'énergie est dépensée par le cerveau. 150 km de neurones et des millions de croisements. Et ça va donner la vie. Et ça va donner la conscience de soi quand, dans une progression quantitative du cerveau, on aboutira à une rupture qualitative avec la conscience de soi. Et ce n'est pas tellement dit ou appris. C'est-à-dire cette extraordinaire force de la vie qui est un échange, cet échange est parti, il ne s'arrêtera pas parce qu'avant de disparaître, la cellule se sera divisée. Et non seulement elle va se diviser, mais elle va muter. Et ces mutations génétiques, et bien c'est ce qui fait notre éblouissement devant la richesse des végétaux, la richesse des différences animales. Ce n'est pas la répétition du même, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Bon, ce n'est pas la répétition du même, la vie. C'est sans arrêt le changement. Et c'est ça qui fait qu'il y a des milliards d'insectes, des milliards de végétaux, enfin des millions, je pousse un peu, mais enfin il y en a, oui, des millions, et qu'ils ont changé sans arrêt, et qu'ils changeront. Il y a un être humain aussi qui a évolué et qui est au bout de cette lignée. Prodigieux à partir de cette même cellule. Alors là, ça inspire le respect. Je vous dirais, ça vous rendrait croyant si vous ne l'êtes pas. Enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose de l'ordre d'admirable dans le vivant, dans cette complexité du vivant qu'il faudrait apprendre à respecter. C'est admirable, la vie. Et tout est organisé pour la survie. Qu'on s'aperçoit maintenant que tout est fait pour ça. Que, aussi bien chez les végétaux, chez les animaux, tout est vectorisé, comme le dit Damasio. La vie vectorisée, c'est-à-dire elle a une valeur, c'est de transmettre. Alors pourquoi on ne sait pas ? Mais tout est fait pour arriver à transmettre à tous les niveaux, que ce soit le ver de terre, que ce soit les végétaux. Eh bien, on sait que, on cite l'exemple de ces arbres qui sont parasités par des champignons qui en ont fait crever des milliers. Et en 150 ans, l'espèce, avant de disparaître, a trouvé un moyen de se servir de la toxine du champignon comme un facteur de croissance, et on voit les arbres qui se remultiplient là. Pourquoi ? Et c'est pareil à tous les niveaux. Plus on avance, plus on dit tout ça, c'est qu'une obsession, transmettre, muter, se diversifier. Voilà. La richesse du vivant, c'est cela. On pourrait là aider les enfants à s'extasier là-dessus. Bon. Tout simplement à partir justement de base. Bon. Et tout ça, je ne perds pas de vue la maladie. C'est que, vous voyez, bon, il y a cette formidable poussée de la vie. Voilà. Et qu'on voit très bien qu'on est dans un paradoxe, c'est que si cette cellule qui va permettre, cette première cellule, le développement de la vie, vous voyez bien que si elle a une membrane trop faible, eh bien, au moindre choc, elle va disparaître. Si elle a une membrane trop épaisse, elle ne peut plus échanger, elle va mourir, parce que la vie, c'est l'échange. Ce n'est pas une métaphore. Et c'est ce qui se passe sur le plan psychique. C'est ce que nous montre justement de façon caricaturale ce qu'on appelle les troubles mentaux. C'est qu'à un moment donné, eh bien justement, on arrête la communication. On fait tous ces troubles du comportement. Pour nous tous, dès que nous allons mal, qu'est-ce que nous faisons ? Eh bien, on se sent en danger. On est menacé sur notre territoire, comme l'animal. Et qu'est-ce qu'on fait ?
réaction de défense, on se replie, les circuits aversifs, on se replie sur soi. Bon, on va faire la gueule dans sa chambre, on va se refermer, on va... Bon, c'est pas grave, c'est une réaction adaptative. Le problème, c'est si on s'y enferme. Et ce que nous montrent les maladies, c'est qu'on n'arrive plus à sortir de ce comportement. Et que personnellement, je vais vite, je pense qu'il faudrait beaucoup mieux parler, avant de troubles psychiques, de conduite adaptative. Car ça, ça change notre regard aussi. C'est que tous les troubles psychiques que j'ai vus, on ne le fait pas pour embêter les autres. On le fait pour être moins mal. Et ça marche sur le moment. Demander à des filles qui se scarifient, pourquoi vous dites, je ne sais pas, c'est moi, c'est là, mais ça me soulage. Par contre, vous leur dites, attendez, si ça vous soulage, passez-moi votre bras, vous allez voir, je vais vous soulager, moi j'ai bon cœur, là ça va être piqué, non mais ça ne va pas, là, c'est l'horreur, ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas moi. Et là, il y a une clé de ce que m'a montré justement ce suivi des patients, c'est que ce n'est pas du masochisme qui fait que vous vous enfermez, que vous êtes dans une maladie, ce n'est pas un choix, c'est qu'en le faisant, vous êtes moins mal. Seulement à un moment donné, eh bien, vous ne pouvez plus arriver à en sortir. Parce que plus vous vous enfermez, moins vous avez confiance, plus vous avez peur, moins vous pouvez échanger. Et la maladie, c'est quand on ne peut plus aller vers les autres. Pas par désir, pas pour les embêter, parce qu'on a peur. Les paranos, ce n'est pas qu'ils se veuillent tout puissants, qui projettent leur agressivité. C'est que quand ils viennent vous voir, ils ont peur de tout le monde, ils ne sont pas dans la confiance. Et comme ils ont peur, eh bien, si vous ne les regardez pas, ils vont dire c'est ça, vous ne vous intéressez pas. Et si vous les regardez, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Donc au bout d'un moment, ils vont provoquer ce qu'ils redoutent. C'est-à-dire qu'on va dire dès qu'on les voit, on se tire ou on ne veut plus. Bon. Et tout est comme ça. Voilà. C'est ça que je voudrais faire passer. C'est que les choses sont beaucoup, beaucoup plus simples qu'on le pense. Et que qu'est-ce qui fait qu'on se replie comme ça? C'est une défense qui est celle de l'animal, c'est la défense du territoire. Voilà. Seulement le territoire humain, du fait de cette réflexivité. Et ça, c'est le grand changement. Le fait d'être conscient de soi a fait que notre territoire, il est devenu, il s'est étendu à tout ce à quoi on accorde de la valeur. Mon territoire, c'est ma famille, c'est ma religion, c'est mon club de foot. Et alors, on va s'étonner de dire, mais comment des gens vont se faire tuer, vont se bagarrer à mort pour un club de foot ou pour une secte de ceci, de cela? Mais oui, parce qu'à un moment donné, c'est leur peau qui joue là-dedans. C'est tout bête. C'est leur valeur. Mais pourquoi ils croient ça? Mais oui, pourquoi vous croyez ce que vous croyez? Alors on va essayer de trouver des arguments logiques, mais ce n'est pas par la logique qu'on croit. C'est parce que justement, c'est quelque chose qui vous parle, qui vous fait donner du sens, vous dire, ah si oui, ça me plaît, comme la beauté, comme tous ce sont des émotions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des arguments plus ou moins valables, mais on va adhérer à ces arguments en fonction des émotions. Et ce que montre la vie, c'est qu'on va trouver des arguments pour justifier ces émotions. Alors, ça manque pas. En plus, on a une période très fréquente en ce moment. Il faut d'ailleurs, c'est quasi expérimental, très important de se nourrir de ce qui se passe là. Vous voyez. Comment on peut arriver à faire croire n'importe quoi si on y croit? Voilà, c'est tout d'un coup. Et pourquoi on y croit? Parce que ça m'arrange. Parce que tout d'un coup, ça apporte quelque chose. Qu'est-ce que ça a à voir avec la logique? Très peu. Bon. C'est-à-dire que c'est notre partie animale qui va justement alimenter nos croyances. Et que ces croyances, si elles sont des croyances qui sont dans la créativité, l'échange, ben c'est pas grave. Si elles sont dans la destructivité, il faudrait mieux réfléchir avant de penser que nous avons la clé, que tous ceux qui ne pensent pas comme nous, on va les supprimer. Parce qu'on a eu la chance d'être dans l'histoire, d'avoir des expérimentations in vivo, plein de ce que mènent comme ça les idéologies, les croyances, quelles qu'elles soient d'ailleurs, peu importe leur sens, c'est la même finalité. On veut toujours le bien de l'autre, au nom d'une entité. Et comme ça ne marche jamais parce que la vie, elle est faite de tensions contraires, eh bien, on va supprimer tous ceux qui nous dérangent parce que, justement, c'est à cause d'eux que ça ne marche pas. Et alors, on l'a vu. Et ça continue. Et on continue à y croire avec le même enthousiasme. Remarquez, ça, c'est favorable parce qu'on voit, que la capacité d'enthousiasme de l'être humain, mais ce que je veux dire, là, c'est que, donc, cette capacité réflexive peut nous conduire à des choses totalement destructrices, de bonne foi, ou à son contraire. Et là encore, c'est ce que nous montrent ces maladies mentales. Les mêmes qui étaient dans la destruction peuvent, des années après, ne plus comprendre cela et être dans tout le contraire. Voilà. Et que c'est là où j'ai favorisé la publication aussi chez Odile Jacob d'un certain nombre de témoignages assez exceptionnels, non seulement d'un schizophrène, Paulo Tonka, c'est un surnom, dialogue avec moi-même, un schizophrène témoigne, où il peut parler justement de sa schizophrénie, ou Agathe Le Noël, ça c'est son vrai nom, qui suis-je quand je ne suis pas moi, c'est-à-dire quand j'ai des épisodes maniaques, ou Nicole Desportes, sous son vrai nom aussi, que nous avons longtemps suivi dans le service, pour une anorexie grave, hein, 8 années d'hospitalisation successive, 15 ans de suivi, bon, qui s'est décollé les 2 rétines à coups de poing sur les yeux, scarifié tout le corps et qui écrit des textes à 50 ans d'une beauté, et qui ose le faire sous son nom, c'est-à-dire montrer que oui, on peut être à un moment donné enfermé dans des choses d'une destructivité dont la force même signifie qu'il y a une appétence à la vie. C'est la même force qui vous pousse à vous détruire et qui peut vous pousser après à faire le contraire. Ce n'est pas 2 forces contraires, ce n'est pas la libido et l'agressivité, c'est la même puissance vitale qui peut vous conduire à la destructivité ou à la créativité. C'est ce que nous montrent de façon caricaturale ces troubles bipolaires qu'on appelle maintenant bipolaires et non plus psychose, maniaco-dépressif. Parce que qu'est-ce que ça veut dire si on dit psychose? C'est qu'ils ont pas, ils paraissent bien, là, il est bien, mais tu sais qu'il est bimbin. C'est-à-dire qu'on a ce besoin de classification terrible. Donc, très rapidement, je reviens à cette réflexivité. Elle fait de nous, le fait d'avoir cette capacité réflexive, fait que nous allons savoir que nous allons mourir et nous allons savoir que nous pouvons toujours avoir plus. C'est-à-dire que l'envie, elle est là, tout bête. C'est que par la réflexivité, on sait qu'on peut avoir plus. Les animaux, s'ils voient des choses qui les tentent, ils vont peut-être y aller, mais ils ne sont pas tout le temps en train de dire, t'as vu, là, l'écureuil, toutes les noisettes qu'elle a, ta voisine, hein, puis 2 fois plus que toi, puis avec des feuilles, enfin, c'est bon, voilà. Non, nous passons notre temps à nous comparer. C'est tout bête, hein, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Par contre, on peut choisir un peu ce qu'on fait de cette comparaison. C'est là que ça pourrait venir. On est sans arrêt en train de se comparer. On sait en plus qu'on va mourir et qu'on n'y peut rien, c'est-à-dire qu'on est impuissant. Ça, ce n'est pas des choses très faciles à supporter. Mais nous sommes en même temps pris devant cette paradoxalité de la vie qui fait que pour être soi, et là, ça rejoint la cellule, il faut se nourrir des autres, mais que pour être moi, différent des autres, il faut que je me différencie. Et ça, c'est un des grands drames que nous montrent aussi les difficultés à l'adolescence. Comment être moi si je ne suis que le produit de mes parents? Eh bien oui, c'est ça toute la paradoxalité de la vie. Ça ne m'empêche pas de faire des choix qui puissent être les miens. Mais il faut savoir que le choix, ce n'est pas en disant « mes parents pensent ceci, moi je pense le contraire ». Ça, ce n'est pas du choix, c'est de la réactivité. Simplement, je fais le contraire de ce que le choix, c'est beaucoup plus nuancé. Bon. Donc, il y a un certain nombre de fondamentaux qui apparaissent. Et d'autre part, il me semble que ce que nous voyons, c'est que nous, par cette réflexivité, nous sommes des dérégulateurs des instincts. Bon, alors quand on voit aussi l'effroi qui va parce que tout d'un coup, il y a des comportements sexuels ou autres qui ne sont pas ceux de tout le monde. Bon, c'était terrible. Mais oui, nous sommes la possibilité de déréguler des instincts. Mais nous sommes des générateurs de valeurs et des générateurs d'ambiance. Et c'est ça, je terminerai après là-dessus, que nous allons trouver dans ces moments de rencontre avec des personnes en difficulté, nous sommes des créateurs de l'ambiance dans laquelle ils vont être. Oui, ça va dépendre de nous. Quel est le climat émotionnel de ses parents à la maison, de nous quand on reçoit les... Et c'est ça. Et rétrospectivement, ce qui m'apparaît important, ce n'est pas tant ce qu'on va faire ou dire, c'est dans quel climat émotionnel ça se passe. C'est fondamental. Ce climat émotionnel, c'est-à-dire est-ce que ça va donner à l'enfant l'envie de vivre et de participer ou est-ce que ça va le plomber? Et là, on peut avoir tous les raisonnements qu'on veut, ce n'est pas ça qui va marcher. C'est est-ce qu'il y a un climat où le plaisir de partager, le plaisir d'être ensemble, même si on vit des choses de douloureuses, même s'il y a des deuils, mais où on est là ensemble, et tout ça, ça prend sens, parce qu'effectivement, on a peut-être perdu quelqu'un, mais on l'a perdu, et c'est nous, il continue à vivre au travers de nous. Vous n'aurez pas ma haine, on vient de le voir illustré, et que là, une partie de la société nous pousse à nous dire on ne pourra pas faire le deuil si on n'a pas, l'autre n'a pas été puni, si l'autre n'aura pas. Mais on ne se rend pas compte que c'est la double peine. D'autre part, une part, il vous a agressé, et en plus, notre vie va dépendre de ce qui va lui arriver. Mais c'est tombé sur la tête. Il n'a pas ce pouvoir, heureusement, il n'a pas ce pouvoir de faire dépendre notre vie. On lui en donne un beaucoup trop grand. Vous voyez que la conception qu'on a de tout cela n'est pas neutre. Si on le voit comme ça, tu as été agressé par quelqu'un, personne n'a le pouvoir de te salir. Voilà. C'est lui qui s'est sali en faisant ça. Oui, ça a été douloureux. Oui, tu as été ça, on ne peut pas le nier. Mais il n'a pas le pouvoir de t'abîmer. C'est lui qui est abîmé, c'est pour ça qu'il a fait ça. Mais ça, c'est à nous. C'est-à-dire que les valeurs, le choix que nous allons faire des valeurs, comment on les interprète, ça va être fondamental. Et ça va se retrouver vis-à-vis de la maladie. Comment on comprend ces choses-là? Donc, nous sommes des générateurs de valeurs, des régulateurs d'ambiance. Bon. Et quand les ambiances commencent à se plomber, et ça pourrait être pareil en famille que dans le travail, le burn-out a beaucoup à voir avec l'ambiance. On le sait que fondamentalement, ce n'est pas l'effet objectif, c'est la façon dont on se déroule et le sens que ça prend. Que la source de burn-out, c'est que ce que je fais ou rien, tout le monde s'en fout. Je n'ai plus de sens. Et ce sens, c'est nous qui pouvons le créer. Et c'est ça qu'on va jouer dans les rencontres avec les patients. Et c'est ça que m'apporte un peu de ce recul quand je vois des patients, comme une fille que j'avais soignée dans les années 69 pour des troubles bipolaires très graves. J'ai vu l'apparition d'ailleurs du lithium. Et comment ça a été un sauvetage pour ces enfants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des difficultés, mais quand on parle des médicaments comme on en parle, c'est incroyable. Ça a sauvé les choses. Et là, depuis une dizaine d'années, après, on a toujours pratiquement une fois par an m'envoyer un peu des nouvelles. C'est marié. Elle a des enfants, et là je reçois l'autre jour un SMS, j'en avais plus depuis peut-être 2 ans, de nouvelles, 1 an et demi, et me disant, ben, on fête nos 40 ans de mariage avec mon mari, on voulait vous dire qu'on vous remerciait d'avoir permis que ce soit possible. Donc 40 ans, plus de 40 ans après. C'est-à-dire, c'est pas simplement que ça me fait plaisir et que ça donne sens à ma vie, c'est que pour elle, de savoir qu'il y a des témoins encore de ce qu'ils ont vécu, eh bien ça aide à donner du sens à la vie. Oui, on a été dans des difficultés. Et les gens, et c'est ce qu'on voit quand il y a des enseignants, des éducateurs qui revoient ceux qui les ont les plus embêtés et qui, par chance, ont pu réussir et qui viennent vous dire, oh, monsieur, j'ai un travail, j'ai un enfant. Ils ont un plaisir qui est incomparable avec celui qui dit, ben oui, j'ai fait ma carrière que je prévoyais, tout va bien, ça va, quoi. Bon, on est content, mais ce n'est pas la même joie. Parce qu'on a besoin de voir quelqu'un qui vient témoigner à ce moment-là. On était au bord de l'abîme, vous le savez, et on a ensemble fait quelque chose de différent. C'est ce côté constructif qu'est la vie. C'est que la vie, pour qu'elle prenne un sens, il faut qu'elle soit partagée. Et c'est là où je vais revenir au rôle que vous avez, que je ne perds pas de vue, qui est que ça a un sens beaucoup plus important. La vie, au fond, c'est une histoire de rencontre entre un potentiel, le génome qu'on n'a pas choisi, et un environnement qu'on n'a pas choisi. Ça commence à faire beaucoup d'absence de choix, mais on peut choisir après ce qu'on va en faire. Et là, ça va beaucoup dépendre des rencontres aussi, qui vont nous aider tout d'un coup. Et on sait bien qu'un enseignant, une phrase, un sourire, et ça ne dépend pas que de notre volonté, mais il faut savoir que la façon dont nous allons accueillir la personne que nous rencontrons n'est jamais neutre. Et je dirais que c'est ce qui m'a fait créer, je fais un peu de pub, un diplôme universitaire qui est peut-être l'enseignement qui m'a le plus parlé de ma vie. Ça fait 14 ans qu'on le fait, un diplôme universitaire adolescent difficile, approche éducative et psychopathologique, dont la particularité, c'est qu'il s'adresse à toutes les professions à haut potentiel émotionnel dans la rencontre avec les ados, santé, justice, éducation nationale, police et gendarmerie, tous ensemble, tous les niveaux hiérarchiques ensemble. Le juge, l'éducateur, l'assistant social, le chef de service, le capitaine de gendarmerie, tous. Bon. Le même programme, qui n'est pas un programme sur leur champ d'expertise, mais un programme pour leur montrer que dans ces métiers où la rencontre, et Dieu sait qu'on a des exemples tragiques de ces rencontres ratées, et quel drame ça peut amener, et comment ça va retentir sur tout le groupe, toutes les sociétés, la façon, toute la société, on l'a vu très récemment avec ces histoires sordides, et où tout le monde est victime, aussi bien le policier qui fait ça que la victime, tout le monde est là, pris dans une ignorance de ce qui se joue là, qui est qu'on respecte les autres, quoi. On ne va pas se servir d'eux comme un instrument. Et ce n'est pas parce qu'ils vous insultent qu'en miroir, on va... Mais il faut que ça ait un sens, sinon... Ou si au contraire, on dit que tu ne vas pas te laisser faire. Il n'est pas question de se laisser faire, mais il n'est pas question de répondre non plus en miroir à la violence par la violence. Et René Girard nous a bien montré comment cette violence mimétique qui s'empare d'ailleurs actuellement du monde est un élément tragique, terrible. Donc c'est pour dire à toutes ces personnes, eh bien en tant qu'éducateur ou en tant qu'expert d'une profession, eh bien ce qui va compter, c'est l'homme que vous êtes, comment il vit son travail d'expert, comment il va le traduire. C'est toute la motivation pour les enseignants. C'est un des grands problèmes à l'heure actuelle. C'est que les enseignants sentent que là, oui, se joue quelque chose. Et quand on fait des enquêtes, comme on avait fait à la Fondation Pfizer, dont tu parles, sur les regards croisés adolescents-adultes, eh bien, on s'aperçoit que quand on demande à des adolescents, des personnes qui sont importantes pour eux, 92% c'est la mère, 87 ou 8 en gros c'est le père, les enseignants c'est autour de 60, entre 70 et 75%. Et quand on demande aux adultes, est-ce que vous avez un rôle, vous pensez avoir un rôle pour ces jeunes, il y a 10%, un décile en moins pour les parents, c'est pas très, très important, par contre pour les enseignants on passe à moins de 30%. Alors si vous pensez que ce que vous faites n'intéresse même pas le tiers de vos, même pas, vous n'intéresse à peu près qu'un tiers de ou qu'un quart même de vos élèves, c'est pas très motivant. Et là, il faut savoir que c'est pas vrai. Mais ils vont pas le dire de la même façon. Et là, on en parlait tout à l'heure avec Patrice, c'est que on va, les jeunes actuellement vont pas s'exprimer de la même façon que nous le faisions. Et on prend ces différences souvent comme une incongruité, voire comme quelque chose d'insolent, alors que ça n'a pas ce même sens pour eux. Bon. Et que c'est ça qu'il faut penser. Et que ce que l'on sait, et c'est ça que montre avec force justement quand on s'occupe de patients comme ça, c'est que aucune rencontre n'est innocente. Voilà, aucune rencontre n'est innocente. Et que nous avons là, dans ces moments justement qui sont hauts en charge émotionnelle, hein, malades, rencontre de retour vers l'enseignement, des parents inquiets, vous êtes là, un carrefour. Et que le regard qu'on va porter est quelque chose qui est une aide précieuse, non seulement par le contenu, mais par justement cette rencontre et le sens que vous allez donner à tout cela. Voilà. Et là, donc, nous sommes donc des régulateurs de ces émotions et des régulateurs, nous créons des créateurs d'ambiance. Et ça, il faudrait que nous le sachions. Et je reviens maintenant à votre position et aux positions de malade. Je suis aussi actuellement pas mal sollicité par des diabétologues qui sont confrontés souvent à des jeunes en diabète de type 1 et qui ne prennent pas leur traitement ou surtout ne font pas leur régime. Et là, on dit, on fait quoi ? Bon, alors, on peut les aider. Comment comprendre ça ? Mais c'est tout simple. Je veux dire, c'est beaucoup plus simple qu'on croit. C'est que c'est injuste d'avoir un diabète de type 1. Alors, si vous avez ça dans une famille où vous vous sentez porté, où il y a quand même une ambiance où cette vie vaut la peine malgré ses difficultés, où on se sent solidaire, où on dit bon d'accord, mais on a la chance, tu vois, qu'il y a un traitement. Donc c'est embêtant, d'accord, c'est très bon, peut-être que ton grand-père ou le cousin là aussi, mais tu vois, on a cette chance-là et on est avec toi. Je pense qu'il y a 9 chances sur 10 qu'il arrive à prendre à peu près son traitement. Mais si ça vient après, pourquoi ma mère est morte quand j'avais 5 ans? Pourquoi mon frère est préféré? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi mes parents se sont séparés? Et que ceci n'a pas été pris dans le sens, c'est-à-dire en comprendre que tous ces événements, ça n'empêche pas qu'on s'aime, ça n'empêche pas qu'il y ait un but, ça n'empêche pas. Eh bien, s'ils se sentent devant quelque chose où on est totalement impuissant, eh bien, évidemment qu'ils ne peuvent rien contre le diabète de type 1. Par contre, ils peuvent choisir le traitement qui leur plaît. Et là, ça leur donne quoi ? Le sentiment d'exister. Et qu'en face, peut-être qu'au lieu de ne pas comprendre, c'est important qu'en miroir, peut-être le diabétologue dise, mais tu sais, quand je te vois comme ça, au lieu de se dire, il est complètement idiot, il ne comprend pas, ou alors qu'est-ce que c'est du suicide, c'est du masochisme. Non, c'est plus simple que ça. C'est qu'il retrouve du pouvoir. Voilà, on a toujours du pouvoir dans la négativité. Et c'est ça aussi, tout le monde le sait. Si vous voulez être heureux, et nous voulons tous plutôt être dans le plaisir de l'échange et être bien, ben je vous souhaite bonne chance, mais si je suis assureur, je ne peux pas vous le garantir. Par contre, si vous me dites, moi, vous savez, monsieur, la vie, j'en ai rien à tirer, tout ça, c'est de la merde, je me fous de tout, rien ne m'importe, et je n'aime rien, ah ben là, je vous signe un contrat, là, ça, c'est possible, c'est très bien, vous êtes sûr du résultat. Le seul moyen d'être sûr du résultat d'un examen, c'est de ne pas le passer. N'oublions pas. Non, mais vous voyez, je pense que dans tous les débats, comme même actuels, comme ça, quand tout ce qu'on nous dit, détruisons, cassons, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. C'est pas que ce soit pas justifié à certains niveaux. Mais ce qui est dur, c'est construire. Voilà. Et que ça dure. Casser, c'est pas difficile. Ne pas aller à l'examen, et là, vous êtes sûr de la réponse. C'est pas que vous êtes heureux, d'ailleurs, parce que vous vous sentez bien. Et c'est pas du masochisme. Ça peut le devenir, mais c'est pas ça. C'est parce qu'on a de pouvoir que dans la destructivité, ça c'est sûr, voilà. Et c'est pour ça qu'on voit fleurir aussi toutes ces idéologies négatives où il n'y a rien à attendre de la vie, où la vie c'est pour la mort, ou tout ça. Ah ben oui, d'accord, ça on est très bien. Si vous n'attendez rien, vous risquez pas d'être déçu. Mais c'est pas sûr que vous ayez une vie très vivante. Ouais. C'est que la vie c'est toujours au risque de la déception. Alors pourquoi je m'étale un peu rapidement là-dessus ? Parce que ça me semble des fondamentaux finalement que moi, mon rêve, qui m'ont été, qui sont, que tout le monde connaît au fond, mais dont on ne tire pas, à mon avis, l'importance, et c'est les patients. C'est de voir justement comment ils peuvent sortir de ça, et quand ils en sortent, ce qu'ils peuvent en faire, encore une fois. Ça ne veut pas dire qu'ils ne restent pas très vulnérables par la sensibilité, car le propre d'avoir une très grande sensibilité, c'est quoi ? Eh bien, c'est qu'on est très sensible à la déception. Et je dirais de la déception, c'est un peu le cancer de nos émotions. C'est-à-dire, comme le cancer, elle se nourrit de la dédifférenciation des cellules, du retour à des cellules originelles. Eh bien, nous, quand on est déçus, eh bien, nous sommes déçus à la mesure de nos attentes. Et quand l'attente était très forte, eh bien, la déception, elle risque d'aller jusqu'à la mort, jusqu'au suicide, parce que c'est le seul moyen, pas parce qu'on veut mourir. Je pense que le suicide est un acte de vie. Et on le voit aussi dans les radicalismes et tout ça, donc il n'a rien de différent de ce qui se passait autrefois. Hein. Ce n'est pas la peine d'en faire une entité, c'est leur donner un peu trop d'honneur, à mon avis d'ailleurs. C'est simplement que les thèmes sont ceux de l'époque et les moyens ceux de l'époque qui sont Internet. Mais c'est le même truc. C'est-à-dire, si la destructivité, c'est la créativité du pauvre, pas au sens économique. Mais si je suis impuissant, je peux toujours, avant de disparaître, me tuer. Ça, il n'y a que les êtres humains qui le savent. Les animaux ne le savent pas. Et nous, nous savons que si on n'est jamais sûr de créer le bonheur, jamais sûr d'être aimé, jamais sûr de plaire, on est sûr qu'on peut détruire et détruire les autres. Et à un moment donné, je pense que c'est ça qui nous donne la force de l'action, parce que c'est paradoxalement une façon de revenir acteur de sa vie. La destruction, on est toujours acteur de sa vie, alors que ce qui nous arrive, c'est l'impasse. Et qu'effectivement, je reviens à mon diabétologue, qui pourrait aussi, je leur dis, peut-être à un certain moment, vous leur dites, tu sais, quand je te vois faire ça, mettre en échec par ton comportement, mon traitement, j'ai des pensées terribles, j'ose à peine te les dire, parce que c'est vrai, j'ai honte. Je me dis, ce petit con, qu'il a un bon coma, qu'il a un accident, il comprendra pourquoi je me bats pour son traitement. Pourquoi je te dis ça ? Parce que tu ne m'importes pas. Si, parce que justement, tu me touches, mais que je me sens radicalement impuissant devant toi. Tiens, toi, tu es impuissant devant ton diabète, moi, devant ton traitement, je pourrais faire un petit club d'impuissants, par exemple, hein, toi, voir un peu comment on peut trouver. C'est-à-dire mettre du jeu, sortir de l'affrontement binaire, comme ça, mettre du jeu. Bon. Et que c'est ça aussi que nous avons toujours comme possibilité, c'est de justement pouvoir embrayer un peu sur autre chose, sortir de cet affrontement, et que tous ceux les tiers, que le psychique, le psychique, vous voyez, au fond, ce qu'on aime, c'est la maîtrise. Nous sommes faits pour reprendre un pouvoir sur notre territoire. Ouais. Qu'on est programmé pour ça, l'animal, les plantes, dès qu'il y a une agression, il faut qu'elles réagissent activement. Nous, nous sommes programmés pour réagir activement. Bon. Mais activement, dans le partage, en allant vers les autres, c'est au risque de la déception. Dès qu'on veut partager avec l'autre, c'est au risque de la déception. D'où la tentation de fermeture. Ouais. Et de le comprendre comme une défense et pas un choix. Hein. Et je crois que c'est important de vous rendre compte que les patients, les malades que vous voyez, personne n'a choisi d'aller mal, mais on peut choisir. Voilà. À un moment, on a l'impression de choisir que, en s'enfermant là-dedans, en coupant tout, eh bien, on se retrouve, on retrouve une forme de pouvoir. Alors, c'est à cela que je crois qu'il faut être vigilant. Et il me semble que c'est chacun d'entre nous qui a à comprendre que, et que là, il y a un assez gros changement à faire dans la psychiatrie, que quand tous ces symptômes ne sont pas faits volontairement, ils sont faits pour nous protéger. Bon, c'est ça, c'est des conduites adaptatives de protection. Tout ce qui est négatif, ça nous protège parce qu'on en a la maîtrise, mais qu'il ne faut pas s'y enfermer dedans, parce qu'à ce moment-là, ça va nous priver de ce qui fait la vie, c'est-à-dire ces échanges. Donc, de le savoir nous met dans une position de jeu, de comprendre, ce n'est pas qu'il a décidé. On ne peut pas réduire une personne à sa maladie. On ne la réduit jamais à cela. Et en même temps, on peut comprendre que sa maladie, sa façon de réagir à la maladie, est une façon pour cette personne de moins souffrir. À nous de lui redonner envie. Voyez. Et que ça dépend de nos motivations aussi. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement la logique, la raison, il faut que tu apprennes. C'est-à-dire, pourquoi il faut que tu apprennes ? Eh bien, il faut qu'ils voient au travers de vous que ça vaut la peine d'apprendre, hein. Qu'il y a quelque chose qui les motive, qu'il y a un partage d'intérêts. C'est tout ça, il me semble, que j'aurais envie de vous dire, et où chacun, et surtout quand on est comme ça un peu en décalage, je vais m'arrêter, en décalage par rapport à l'affrontement direct, qui sont, je dirais, avec les médecins ou avec les parents, vous êtes un peu décalé. Tout ce qui décale va permettre ce qui est pour moi le psychique, c'est le jeu. Le psychique, encore une fois, ce n'est pas le travail de conceptualisation, c'est un élément, mais le psychique, c'est la capacité de jouer avec les concepts. Voyez. Et dès que les émotions sont très fortes, vous ne jouez plus, vous êtes dans le binaire, c'est bon, c'est pas bon. Et voyez comment ça rassure, c'est bien, c'est mauvais. Alors on est tout de suite rassuré. C'est là, c'est fait contre la peur, sauf que ça vous enferme. Et celui qui n'est pas du bon côté, c'est le mauvais. Donc le mauvais, il va falloir l'éliminer. Il n'y a pas de mauvais. Il y a un potentiel qui peut tourner vers la destructivité. Le même potentiel peut tourner vers la créativité. C'est ça qui est important. Il n'y a pas des bons, il n'y a pas des mauvais, il n'y a pas du vrai, il n'y a pas du faux. Il y a tout le temps, la vie, c'est ça, c'est deux fils. Il faut que je me différencie et il faut que je me nourrisse des autres. Et il n'y aura jamais de solution parfaite. C'est une tension permanente entre des contraires. Et c'est cette tension entre des contraires que tous ces espaces intermédiaires entre les parents et l'enfant vont permettre de faciliter, et notamment ces rencontres, que ce soit à propos du traitement ou ces rencontres à propos justement de la reprise scolaire, il faut les voir aussi comme des occasions, voilà, de redonner une envie d'échanger, de partager, de vivre, voyez. Et que c'est pour ça qu'il me semble qu'à l'heure actuelle, et on le voit bien au niveau de notre société, c'est mon dernier mot, il y a une crise du sens. Le grand problème, ce n'est pas de réciter tous les trucs qu'on voit, toutes les solutions qu'on nous propose. Ça fait des siècles, des années qu'on est. Mais on sent bien que c'est comment on va pouvoir jouer avec, comment on va pouvoir ne pas être dans l'affrontement direct qui n'a jamais abouti à rien. Mais comment on va essayer de co-construire avec des réussites, avec des échecs, et on essaie de. Dans une tension permanente, il n'y aura pas de perfection, ça n'existe pas. Et de dire, mais voilà, c'est pas parce qu'il a cette maladie qu'il ne peut pas aller vers autre chose. C'est pas, ne réduisons pas le patient à sa maladie, mais ne l'ignorons pas. Vous voyez, vous êtes comme ça, dans des intermédiaires, là, qui aident le sujet à sortir de cette confrontation du binaire qui est « ah, mais ma maladie, donc il y a ceci ». Non, il y a la maladie, qu'est-ce que je vais en faire ? Voilà, c'est ça. Oui, il y a la maladie, qu'est-ce que je vais en faire ? Et que même après la mort, la façon dont nous allons vivre la mort, évidemment, d'un enfant, va être pour les suivants déterminante dans leur appétit à vivre. Et on sait bien combien des deuils non faits vont être pour les survivants un sentiment qu'ils n'ont pas en eux les qualités qui permettraient de redonner envie à leurs parents de vivre, qui permettraient de les aider, qui n'ont pas le soleil qui nous permettrait. C'est peut-être terriblement ravageur. Et que ce n'est pas oublier le mort que de dire on prend priorité sur la vie qui a priorité. Est-ce que tu n'as pas pu vivre ? On va essayer de le vivre avec d'autres. Et c'est ça qui te continue de te faire vivre en nous. Et non pas de nous enfermer comme cela, ce qui est compréhensible, mais qui est, vous voyez, qui est au fond une prolongation de la mort. Si la mort entraîne l'enfermement, elle se développe. La mort doit nous pousser, la maladie, toutes les difficultés vers l'ouverture, pas dans le déni, mais au contraire, pour aller vers les vraies valeurs que nous voulons porter, c'est-à-dire celle de la vie, qui est une co-construction permanente.
Merci Philippe de nous avoir transmis ce que ton expérience t'a enseigné. Je crois que c'est effectivement un des éléments très importants aussi de la fonction de l'enseignant, que cette transmission d'un bagage de connaissances, de savoir, mais aussi du rapport au monde, du rapport aux autres, du rapport à la vie. Je laisse à la discussion évidemment l'appréciation sur une définition possible de vos interventions, vous les enseignants, à l'hôpital, qui serait créateur d'ambiance. Créateur d'ambiance, d'où découle très rapidement dans ton propos créateur de sens aussi. Hein. Et là, je trouve qu'il y a une piste aussi tout à fait intéressante, au-delà même de ce qui, objectivement, pourrait être relevé de votre exercice. Alors, je vais tout de suite, comme c'était prévu, passer la parole à Anne-Dauphine Julien pour qu'elle nous fasse part de ses réactions à ce propos, si elle le veut bien.
Oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci de nous avoir éclairé sur votre expérience et même au-delà de votre expérience sur la vie en général. Vous avez raison, je crois que ces 50 dernières années, on a compris le comment de la vie. Et si on a L'un des problèmes, c'est que le comment n'explique toujours pas le pourquoi et que cette quête de sens, elle réside dans le pourquoi de la vie. Vous avez cité à plusieurs occasions, de façon un peu différente, d'abord la fatalité, entre guillemets, d'une vie, ou en tout cas de ce qu'on va recevoir, de ce que l'on reçoit à notre naissance, le fait qu'on n'ait pas choisi, alors on peut choisir de vivre sans avoir choisi d'exister, on n'a pas choisi d'être, mais on peut choisir de vivre. Et vous avez très bien expliqué ce sentiment de fatalité, et je pense que c'est un peu problématique, ce sentiment de fatalité, justement, parce qu'on a l'impression, beaucoup, je trouve, de subir notre vie. On a l'impression, en effet, on va subir nos origines, notre culture. Enfin, subir. On ne choisit pas nos origines, notre culture, notre potentiel, tout ce qui fait ce que l'on est. Et ce sentiment prend une proportion plus importante quand on est tout d'un coup touché par la maladie. Il y a cet événement majeur qui survient dans notre vie, qui va souvent plus nous empêcher. Et avec cette question qui survient assez facilement et je pense de façon assez dramatique. Pourquoi ? Pourquoi ça va m'arriver ? Pourquoi moi d'abord ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Sentiment de culpabilité, d'être soit coupable de quelque chose, soit d'être victime de quelque chose. Et surtout, je crois, un sentiment terrible, c'est celui d'être dépossédé de sa vie. Tout d'un coup, on se dit, j'ai cette tulle qui m'arrive sur la tête. Alors là, je vais parler... pas en tant que forcément la personne malade, mais moi j'interviens en tant que parent, vous l'aurez compris. J'ai eu deux petites filles malades qui sont toutes les deux décédées de leur maladie à 4 ans et à 10 ans. Donc j'ai vécu tout d'un coup ce tsunami dans une vie tout à fait normale d'apprendre la maladie d'un enfant et tout d'un coup on est dépossédé de cette vie. On se dit je n'ai plus le choix en fait, je ne vais faire que subir les conséquences d'une épreuve que je n'ai pas choisie. Vous parlez d'être acteur de sa vie, moi j'ai aimé un poème, je pense, qui peut nous sauver dans des circonstances comme celle-ci. Un poème de William Henley, dont je vais citer uniquement la dernière strophe, mais qui résume tout, qui dit « Aussi noir soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. » Le capitaine ne choisit pas les tempêtes qui vont secouer la mer, on ne choisit pas les épreuves qui vont bouleverser notre vie. Je pense que ce qui fait de nous un être humain, et pas juste un être en vie, ce qui fait de nous un être unique, c'est notre capacité à choisir, qui peut être limitée en effet par des facteurs éducatifs, psychiques, etc. Mais on peut toujours quand même choisir la façon dont on va vivre les événements. Je trouve important, on est un être unique en effet, vous l'avez très bien dit, chacun individuel, mais à la fois on est tous connectés les uns aux autres et c'est ce qui fait qu'on vit en société. J'ai beaucoup aimé, et on l'a partagé, votre émotion, quand vous parliez des rencontres, et notamment de cette jeune femme qui se réjouissait avec vous de ses 40 ans de mariage. Je comprends que ce soit réjouissant, 40 ans de mariage. Et vous aviez, et j'espère que vous aviez ce sentiment et cette fierté d'avoir participé au succès et à ces 40 ans de mariage. Je pense qu'on intervient les uns dans la vie des autres toujours, en fait. Et ces rencontres, elles sont vitales. Parfois, sur le chemin, on remet quelqu'un sur pied juste avec ce qu'on peut lui donner, et souvent ce qu'on peut lui donner. Et là, on est tous dans le même bateau, et chacun à son niveau. C'est le sentiment de la dignité d'être aimé. Si on n'a pas ce sentiment de la dignité d'être aimé, je pense que quel que soit ce qui nous arrive dans la vie, on ne peut pas avancer. Si on se sent aimé, en dépit des circonstances, en dépit des maladies, en dépit des fragilités, des handicaps, on est capable d'avancer sur notre chemin, parce que quoi qu'il arrive, c'est notre chemin de vie. Moi, j'ai été assez impressionnée. J'ai réalisé un film très récemment où je donnais la parole à 5 enfants, c'est des petits, hein, bien plus petits que vos patients d'ailleurs respectifs. Ils ont entre 5 et 9 ans, et je suis volontairement restée dans cette tranche d'âge de 5 à 9 ans, dans cette enfance, en fait. Cette enfance qui a une capacité d'expression, de verbaliser ce qu'ils ressentent. Ils ont 5 ans, donc ils ont un bon accès à la parole. Et avec ça, 9 ans, on n'a pas encore, on ne s'est pas confronté à l'adolescence, à ce changement de perception de la vie. Et donc, ces 5 enfants, je suis allée les rencontrer, leur donner la parole. Ils ont un point commun, principalement, c'est qu'ils sont tous les 5 gravement malades, atteints de maladies... pas forcément incurable, mais pour la plupart, si. Certains savent qu'ils vont mourir de cette maladie. et en tout cas une maladie qui a totalement bouleversé le chemin de leur existence. Moi, j'ai été émerveillée, j'ai été très surprise. Ce film s'appelle « Et les Mistral gagnants », j'aurais pu l'appeler, mais le titre avait déjà été utilisé, « Sur les chemins de l'école ». Je fais allusion à un film qui retrace le parcours de 4 enfants dans des différents coins de la planète qui ont un parcours absolument incroyable pour atteindre l'école. C'est un film en effet magnifique qui nous fait bien réfléchir sur... moi j'ai des petits qui râlent pour aller à l'école, et je trouve que ça est bien réfléchir. Mais au-delà, même on n'a pas besoin d'aller si loin, on n'a pas besoin de traverser l'Atlas ou la steppe pour avoir un chemin parfois compliqué pour aller à l'école. Moi j'ai été impressionnée chez chacun des enfants par l'envie mais viscérale qu'ils avaient d'aller à l'école coûte que coûte. Leur principale motivation à chacun, c'était pas de guérir, jamais aucun ne l'a exprimé. Enfin, j'imagine que bien sûr, aucun n'avait envie d'être malade, ils avaient envie de guérir, mais ce qu'ils voulaient tous, ces petits de 5 à 9 ans, c'était aller à l'école. Et à un moment, je discutais avec un petit garçon qui s'appelle Imad, qui a une insuffisance rénale en stade terminal, donc il vous explique, hein, ça fait 3 ans qu'il n'a pas fait pipi, ses reins sont foutus, voilà. Il est en attente d'une greffe, qu'il a eue d'ailleurs depuis. Et donc, il me décrit la greffe, au cours du film, il décrit la greffe avec un vocabulaire d'enfant de 6 ans ou 7, 6 ans et demi. Donc, c'est mignon, quoi. Il dit, on va m'ouvrir le ventre, on va me mettre une nouvelle rein, puis on va m'emballer. Nouvelle rein, c'est lui qui a fait la faute, hein, c'est pas moi. Voilà, donc moi, nous, l'équipe, on est en face, on est un petit peu impressionnés. On voit ce tout petit bonhomme qui décrit quand même quelque chose de terrible qui l'attend, enfin, d'effrayant en tout cas. Et donc, je lui dis, mais Imad, ça te fait peur, la greffe ? Il me dit, ah non, la greffe, ça ne me fait pas peur, j'ai hâte. Moi, ce qui me fait peur, c'est le CP. Et tout d'un coup, il me replante dans sa vie. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Mais vous, comme nous, hein, enfin moi, maman, et vous, enseignants, c'est qu'un enfant malade, un enfant hospitalisé, un enfant dont la vie va être courte, c'est un enfant. Quoi qu'il arrive, c'est d'abord un enfant. Et j'imagine, alors peut-être que vous voyez plus d'adolescents, et ça change quand même à l'adolescence. Bon, dans le public, vous voyez de tout âge. C'est souvent ce qui frappe hein, quand on s'approche d'un service de pédiatrie, c'est qu'on s'imagine voir la maladie, parfois la mort, enfin la difficulté, et qu'on voit avant tout des enfants qui courent, qui se chamaillent, qui se font des couvages, qui chantent, qui pleurent, qui vont se cacher. Il y a cet appétit de vie, il y a cette cohérence de vie, il y a cet instinct de vie extrêmement fort, et l'école, elle s'inscrit dans ce programme de vie. Non pas qu'ils ont envie d'apprendre les mathématiques ou les règles de grammaire ou l'orthographe. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui remettent en cause l'orthographe, je trouve. Mais c'est qu'est-ce que représente l'école ? Ben, ça représente la société. Ça représente la société, ça représente l'avenir aussi. Ça représente cet apprentissage que vous évoquiez tout à l'heure. Dans la vie, on cesse d'apprendre. On ne cesse de grandir et d'apprendre. Et l'école, à cet âge-là, elle concrétise tout ça. Ça nous positionne aussi, l'école. Et Joséphine l'évoquait tout à l'heure également. Comment est-ce que les parents se comportent ? Quand on apprend quand son enfant est gravement malade, il n'y a pas de bon hein, ou de mauvais schéma de pensée. Mais il y a ceux qui se disent, ben, par rapport à la maladie de mon enfant, l'école, on s'en fiche. Quoi. Enfin, vraiment, c'est le dernier de nos cadets. C'est le cadet de nos soucis, pardon. Ce qu'il faut, c'est que d'abord que l'enfant vive, qu'il guérisse, et puis l'école, on verra. Et puis, il y a d'autres parents qui, coûte que coûte, s'accrochent à cette scolarité qui les rassure, certainement. Qui leur dit, si mon enfant continue sa scolarité, ça veut dire aussi qu'il va s'en sortir. Au-delà de l'apprentissage et du fait de rester dans un niveau scolaire, l'enseignement nous donne notre place dans la société. Nous donne la place et surtout, et même quand l'enseignement se fait à l'hôpital, c'est cette main qui est tendue, qui dit... Vous avez votre place dans la société. Si je viens vous voir et vous enseigner à l'hôpital, c'est pour que vous continuiez à grandir intellectuellement peut-être, mais c'est pour que vous gardiez toujours votre place dans la société. Et si vous dites ça à un enfant, si vous lui faites comprendre ça, vous lui dites aussi, parce que tu restes digne d'être aimé. Parce que quand on se sent digne d'être aimé, on se dit qu'on a toujours sa place dans la société.